Il y a un contraste très fort entre ce que nous entendons de Jésus, ce que nous venons d'entendre de Jésus dans la deuxième lecture de l'épître, de première épître aux Corinthiens, où il nous est dit que le Messie crucifié est folie pour les Grecs, est scandale pour les Juifs, et pourtant il est puissance de Dieu pour ceux qui croient. Ce Messie crucifié, la puissance de la grâce qui se transmet à travers lui, qui passe à travers lui, est exceptionnelle pour ceux qui ont la foi. Et puis, dans l'Évangile, cette finale où Jésus dit cette parole sévère qui s'adresse, il faut le croire aussi, qui s'adresse aussi pour nous. Il connaissait, il ne leur faisait pas confiance. Jésus savait leur cœur. Beaucoup croyaient, beaucoup se convertissaient, mais Jésus connaissait leur cœur. Il y a ce contraste dont il nous faut prendre conscience de façon particulière pendant ce temps du carême, que nous soyons catéchumènes ou que nous soyons baptisés de longue date. Parce qu'en fait, qu'est-ce que veut faire le Seigneur à travers la grâce de Pâques, la grâce du carême, la grâce de la mort et la résurrection de Jésus, à travers sa croix, à travers le mystère de la crucifixion? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous transformer et nous purifier. Il veut réaliser quelque chose en nous, mais il ne pourra pas le faire, comme nous le disons souvent, et c'est important de se le rappeler, il ne peut pas le faire sans nous. De la même manière qu'on ne peut pas baptiser quelqu'un de force, on ne peut pas convertir quelqu'un de force, et même si nous sommes baptisés de longue date, nous ne pouvons pas changer vraiment si nous ne le décidons pas personnellement, si nous n'avons pas cette véritable cette décision personnelle de changer de conversion. Alors nous savons que c'est compliqué, nous savons que c'est long, nous savons aussi que nous ne voyons pas les résultats de notre désir de conversion, mais ce qui est important, c'est pas tant de voir, de faire notre liste. C'est vrai que nous sommes dans une société où nous aimons bien être efficaces, avoir du résultat, de pouvoir compter. Est-ce que j'ai fait du bénéfice? Est-ce que mon compte en banque augmente? Nous aimons ça, mais ce n'est pas dans la sagesse de Dieu. Ce qui est dans la sagesse de Dieu, c'est de nous mettre en route, de marcher, de traverser le désert, d'aller dans le désert, de marcher, pour au final laisser Dieu agir, même si nous ne constatons pas tout de suite le résultat. Nous sommes invités simplement à nous mettre en route et à laisser Dieu agir. Cet évangile peut nous surprendre, je pense qu'il nous surprend la plupart, parce que c'est le seul évangile, me semble-t-il, où Jésus se met vraiment en colère. Il y a d'autres évangiles où il est dit que Jésus a un regard sur la foule, un regard sévère, mais bon, il dit rien. Il fait pas de fouet, voilà, il bouge pas. Là, c'est le seul évangile où Jésus, il fait une action. C'est un peu, il agit comme les prophètes un peu de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'époque, c'était considéré comme un geste prophétique. La preuve, c'est que Jésus n'a pas été arrêté au moment où il faisait ce geste, parce qu'il y avait quand même des gens pour garder le temple. Il faut se rappeler que nous sommes dans un territoire occupé qui était très tendu, hein. Il y avait des tensions importantes internes, un peu comme aujourd'hui, de façon différente. Mais... Et donc, il aurait pu être arrêté sur le moment, il n'a pas été arrêté parce que, sans doute, que son geste a été considéré comme un geste prophétique. Et de fait, il l'était. Jésus agitait comme un prophète. Il est furieux, il prend un fouet, vous le connaissez comme moi l'histoire, hein, il chasse les marchands du temps. Alors il y a deux raisons à ce geste prophétique. La première raison, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'en fait, Jésus, son œuvre, c'est la purification. Son œuvre, c'est faire en sorte que l'homme, désormais, puisse agir avec un cœur pur, qu'il puisse accéder à la sainteté, qu'il puisse avancer vers la sainteté. Le temple est composé de différents espaces, et donc là où Jésus chasse les marchands du temple, c'est l'emplacement où finalement, c'est pas dramatique qu'ils soient là. Normalement, ils n'auraient pas dû être là, ils auraient dû être un petit peu plus à l'écart du temple, hein, les marchands du temple. Entre parenthèses, les marchands du temple étaient nécessaires parce que beaucoup de juifs venaient en pèlerinage et devaient offrir un sacrifice. Souvenons-nous, Joseph et Marie qui viennent présenter l'enfant Jésus, qui offrent deux petites colombes pour racheter leur premier-né. Donc, en fait, ces marchands permettaient d'acheter, par exemple, les colombes quand on arrivait. Ils permettaient aussi de faire du change, puisque c'était l'argent romain qui circulait, et on changeait pour avoir de l'argent pour donner, faire l'offrande du temple. Souvenons-vous de l'offrande de la veuve, hein, Jésus qui regarde les gens qui donnent des offrandes au temple. Et voilà, c'est exactement... Donc, ils étaient nécessaires, les marchands. Seulement, voilà, ils étaient sur le parvis des gentils, hein, donc ils pouvaient, c'était pas dramatique qu'ils soient là, mais Jésus ne veut pas qu'ils soient là, montrant que le temple, qui est symbole du monde, le parvis des gentils, qui est le symbole du monde tout entier, eh bien, doit être purifié par son action, par l'action même de Jésus. Jésus doit travailler à cette purification, et donc, ce temple... symbole du monde, doit être purifié par l'action de Jésus. De la même manière, ce temple, nous le savons, c'est aussi notre corps. Saint Paul le dit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le symbole, c'est notre corps. Et Jésus veut purifier notre corps, ou plus largement, même notre vie tout entière, de tous les marchands qui peuvent l'habiter, les idolâtries. Les marchands aussi pouvaient avoir cette propension à faire un gros bénéfice sur leur commerce auprès des pèlerins. De toute façon, quand ils arrivaient, les pèlerins, il fallait qu'ils achètent le truc, donc ils pouvaient monter les prix. Au final, les gens finissaient quand même par acheter les colombes, et etc. Et autre chose. Donc, il y avait des abus de business. Et donc là, Jésus se révolte contre cela. Tout cela, et donc, c'est le symbole aussi de toutes nos idolâtries, de notre monde, de notre propension à penser à l'argent plus qu'à Dieu. Nous savons que Jésus, c'est le seul moment où il met en garde vraiment, il dit « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres », c'est le seul endroit où il le dit. Dieu ou l'argent. Et nous ne pouvons pas ne pas dire que dans notre société, nous avons choisi notre Dieu. C'est clair. Après, chacun, nous, personnellement, nous pouvons faire un autre choix. Mais notre société a choisi son Dieu, puisqu'elle rejette Dieu et elle sert l'argent, me semble-t-il. Voilà. En tout cas, le Seigneur nous invite à purifier tout cela. Il est là pour purifier notre monde. Il est là pour purifier notre vie. Il est là pour purifier aussi chaque catéchumène dans la grâce du baptême. Voilà, ça c'est la première raison, c'est cette raison de purification que le Seigneur veut nous... C'est un geste prophétique qui va se réaliser totalement par sa crucifixion, par sa mort sur la croix, et par le fait qu'ensuite nous pouvons accueillir Jésus dans notre vie qui va nous purifier, qui va nous aider. Mais il y a un deuxième aspect dans cette démarche de Jésus. Les apôtres se souviennent de cette parole du psaume « L'amour de ta maison fera mon tourment ». On peut aussi traduire « Le zèle de ta maison me dévore ». Et à travers ce zèle de Jésus, ce désir de glorifier Dieu, de servir Dieu, de tout faire pour que l'œuvre de Dieu se réalise dans notre monde et dans la vie des hommes, eh bien, c'est une interpellation pour nous. Nous sommes invités à imiter Jésus. Et la question que nous pouvons nous poser, je vais terminer par cela, c'est est-ce que le zèle de la maison du Seigneur me dévore? Est-ce que j'ai du zèle pour Jésus? Pour le rencontrer, en prenant le temps de la prière qu'il faut, pour l'annoncer, en osant témoigner de ma foi, pour le servir, en particulier auprès des plus pauvres et de ceux vers lesquels je ne voudrais pas aller spontanément? Est-ce que j'ai du zèle pour ma conversion personnelle? Est-ce que je travaille à chasser les marchands du temple? Est-ce que je cherche vraiment à changer de vie? Ou est-ce qu'au contraire, mon confort de bon chrétien me convient très bien? Est-ce que j'ai du zèle pour l'Église? Est-ce que je veux devenir un ouvrier pour la moisson du Seigneur? Est-ce que je veux participer à la vie de l'Église, à sa prière liturgique avec tout mon cœur? Voilà. Est-ce que j'ai du zèle pour le Seigneur? Donc il y a deux points. Le premier point, le Seigneur fait un geste prophétique pour montrer ce qu'il veut faire dans notre monde et dans notre vie. Il veut nous purifier et il le fera si nous le voulons bien. Et le deuxième point, c'est est-ce que moi, personnellement, je suis comme Jésus et j'ai du zèle pour la maison du Seigneur ? Amen.